France Culture.
Bonjour Patrick Baudry.
Bonjour.
On se retrouve pour le dernier entretien que j'ai intitulé « Savoir se donner des ailes ». Donc on va au sens propre et au figuré. Dans l'avant-dernier entretien, on a évoqué donc votre vol à bord de Discovery. Vous êtes parti avec la BD Objectif Lune de Tintin. Vous aviez matériellement le livre avec vous. Pourquoi avoir pris ce livre avec vous?
C'est mon enfance, je veux dire. Tintin, Hergé d'abord, c'est un génie, il faut lui rendre hommage au passage. Mais je veux dire, les deux albums de Tintin, avec Objectif Lune et donc où on voyait Tintin, Capitaine Haddock, tout ça sur la Lune, c'était absolument génial. J'ai eu une chance d'aller dans l'espace. Aussitôt, j'ai pensé à cet album. Je me suis dit, ce serait bien de l'amener là-haut, quoi. Il le mérite.
D'ailleurs, et je l'ai amené. Il y a une photo de vous où vous présentez Objectif Lune.
Ouais.
Et vos camarades de bord, ils ont jeté un œil dans la navette où vous étiez le seul.
Ils connaissaient tous. Hein.
Oui.
Ils connaissaient tous.
Oui.
C'est ça qui est quand même intéressant, savoir que les Américains
Le prince,
Sultan Bin Salman connaissaient les albums d'Hergé et ces albums-là. Bon, ce sont des albums que tous les gens amoureux d'espace autour de la Terre connaissent. Je suis sûr que les Chinois le connaissent aussi.
Vous avez fait un livre qui est intitulé « Carnet d'un voyage spatial, récit de mission dans les étoiles » et que je recommande. C'est un livre que vous avez fait avec votre seconde épouse, Stéphanie, qu'on salue, qui est un livre que vous avez voulu ensemble très, très illustré. C'est un très beau projet, vous allez nous en dire un mot. Je le décris très, très rapidement. Vous y rendez hommage aux grands explorateurs, parce que de Christophe Colomb jusqu'à Gagarine, et puis tous les astronautes, cosmonautes, aujourd'hui, voilà, il y a cet esprit d'exploration. Vous évoquez bien évidemment, avant de partir aux États-Unis, l'exploration russe, la Cité des Étoiles. Le livre est entrecoupé avec toutes ces figures, bien évidemment les missions Apollo, que vous décrivez très très bien. Et puis il y a les photos de votre vol à bord de Discovery, les récits à l'intérieur. Il y a à la fois des documents d'archives et vous l'avez voulu aussi illustrer avec des artistes. Donc c'est un très très beau projet collectif.
Oui, c'est un livre simple dont l'objectif était de permettre à quelqu'un d'avoir une bonne culture générale sur la conquête spatiale, habité notamment, bien sûr, très simplement, avec des documents, des illustrations simples, belles, et un texte simple et beau aussi. Donc c'est vraiment un carnet. On l'a voulu comme un carnet qui permet d'entrer dans la conquête spatiale de manière très simple et très, très intéressante, j'espère.
Et en ouverture, et je cite la dédicace telle qu'elle est écrite, « Ton fidèle ami, peintre Kino, Saint-Germain-en-Laye, le 10 septembre 2007 ». Donc cet ami peintre.
Oui, là, Kino, c'était hélas, parce qu'il est décédé, un personnage extraordinaire, faisait partie de la bande à Picasso et tous ces gens qui ont un peu révolutionné l'art pictural. Et ses œuvres sont superbes d'ailleurs. Et donc on est devenus amis parce que c'est un slave, Ladislas Kino, avec une âme de slave. Et donc les discussions enflammées, lui était un adepte du Parti communiste, bien sûr, ce qui crée déjà quelque chose d'intéressant dans nos conversations. Voilà, là, quand je dis que je faisais ce bouquin, ses œuvres s'adaptent tout à fait à la conquête spatiale, en fait. Et donc, voilà, il l'a dédicacé et j'ai représenté une de ses œuvres dans le livre.
Oui, d'ailleurs, là, je suis en train de vous interviewer chez vous en région bordelaise.
L'œuvre est là, oui,
et derrière,
vrai.
On ouais. a donc une peinture qui mêle, on peut dire, tout l'humanisme et un humanisme aujourd'hui tourné vers le grand cosmos. C'est une œuvre cosmique hein, qui est derrière vous. Alors, je vais la décrire très très rapidement. On voit un homme assis avec un immense télescope. Il y a un grand soleil. On voit aussi, il me semble, une figure de Bouddha ou de, enfin, ou de, voilà. C'est très intéressant parce que du coup, on a un petit peu toutes les cultures qui sont représentées sur ce tableau. C'est très émouvant. Et donc, il y a une sorte de mouton, derrière, enfin, qui est au centre du tableau.
C'est le petit prince.
C'est le petit prince de Saint-Exupéry. Magnifique. Et d'ailleurs, vos sœurs vous surnommaient petit prince. On en dira un petit mot. Et quand vous étiez enfant, donc, et avec Saint-Exupéry, pilote d'avion. Hein,
ça devait être ironique, je pense.
Il y avait de l'humour dans votre famille aussi, j'imagine.
Oui, j'espère, je pense, oui.
Parce que, d'où vient ? Parce que vous avez beaucoup de distance, beaucoup d'humour, enfin...
C'est peut-être pour ça que j'ai beaucoup apprécié le séjour en Union soviétique, c'est que les Russes ont un sens de l'humour très très développé, un sens de la dérision. Et la dérision, ça va avec l'humilité. Et c'est ce qui manque un peu souvent dans notre humour à nous, c'est ce sens de la dérision qui est... Moi, je suis un adepte de ça, la dérision. C'est quelque chose de fondamental.
Je reste du coup en Russie avec cette fameuse cité des étoiles. On a dit combien c'était matriciel hein, tout au long de nos entretiens. Je vous cite dans votre livre « Aujourd'hui, le soleil se lève 16 fois ». Quand je pense à la cité des étoiles, j'y pense comme à une maison natale. J'y ai appris mon métier de cosmonaute, mais bien plus, un mode de vie et de pensée. Et le plus important, j'y ai noué des amitiés indéfectibles. Vous êtes parti en URSS avec votre famille, votre petite fille, l'aînée, Mélodie. On va pas trop parler de la famille, mais on dit un petit mot. Elle était enfant, elle a été au jardin d'enfants à la Cité des Étoiles. Et elle a fait la découverte du russe. Comment s'est passé à chaque fois vous avez voyagé avec votre famille d'ailleurs.
C'était assez curieux parce qu'on est arrivé à la cité l'été et Mélodie avait 4 ans donc elle parlait pas un mot de russe bien sûr. Et de jour en jour elle parlait toujours pas russe. Et moi ça commençait à m'inquiéter quoi. Puis un jour elle a parlé russe mais couramment. Oui, il n'y a pas eu d'étape intermédiaire, comme pour moi qui avais appris le russe avec difficulté, avec beaucoup d'efforts, hein, progressant chaque jour. Pas du tout. Un jour, elle a parlé russe. Voilà. Simple. Elle était au jardin d'enfants et donc chaque jour elle baignait parmi des gamins qui parlaient que russe, des maîtres ou des maîtresses qui ne parlaient que russe et puis voilà. Mais ce qui est curieux, c'est qu'elle n'a pas parlé avant. Voir un enfant comme ça qui un jour s'adresse à vous en russe comme les Russes, c'est-à-dire sans accent, sans russe. Quoi. Ça, je m'en souviens encore aujourd'hui. C'était impressionnant.
Elle est restée fidèle à cette langue. Enfin,
elle parle russe, elle parle d'autres langues aussi. Hein.
Mais on a une carrière internationale, je crois.
Oui.
Et après, vous êtes partie aussi avec votre famille côté américain au moment de la navette. Est-ce qu'ils vous ont suivi ?
Côté américain, je suis partie seule.
Seule ?
Je suis partie seule parce que bon, c'était pas simple du tout. Donc, je suis partie seule avec. Mais vous savez. Dans le milieu des pilotes, des pilotes de chasse, bon, j'étais pilote d'essai et cosmonaute, c'est vrai, mais on retrouve les mêmes, on retrouve des pilotes et c'est une communauté. On a quand même beaucoup de points communs et quand on se retrouve dans un milieu composé de gens qui sont comme vous, il y a aucun problème, bien sûr. Donc c'était
former un microcosme. Et d'ailleurs, enfin, aux États-Unis, vous avez retrouvé Mike McCullen, enfin que vous aviez
Mike
rencontré
McCullen, ouais, qui était
au
élève,
centre d'essai,
pilote d'essai avec moi chez les Anglais. Et Mike était là, il était à la NASA. Et donc voilà, je me suis retrouvé en famille à nouveau.
Voilà, c'est ce que vous dites, famille à la Cité des Étoiles avec les Russes, puis famille.
C'est un grand paradoxe parce que du temps, c'était le temps de la guerre froide, quand on était parti en Union soviétique avec Jean-Loup, tous deux officiers de l'armée de l'air quand même, c'était quand même un contraste assez impressionnant. Et on pourrait s'attendre, et beaucoup de gens d'ailleurs quand même posé la question, je vois bien qu'ils s'attendent à ce que en Union soviétique les choses aient été plus faciles qu'aux États-Unis, alors que c'était l'inverse. Pourquoi? Parce que un cosmonaute à cette époque était confronté aux médias. Et les médias soviétiques étaient sans surprise. Aux États-Unis, les médias n'appréciaient pas tous que la navette spatiale américaine, financée par les contribuables américains, emmène un citoyen d'un autre pays. Viscéralement, ils n'acceptaient pas qu'un étranger prenne place à bord d'une navette spatiale des États-Unis d'Amérique. Alors pas tous, c'était une minorité, mais les entretiens avec les médias là-bas étaient piégeux. C'est là que j'ai appris ce que pouvaient être les médias. Alors qu'en Russie, il n'y avait pas de piège, on savait très bien ce qu'ils voulaient, il n'y avait pas de surprise. En revanche, là-bas, je me suis fait piéger une fois et pas deux.
Et en France aussi, il y a eu le moment où, au retour de Russie, parce que c'est quand même c'est compliqué. À la fois, il y a la diplomatie du spatial, et puis en même temps, quand vous avez fait cette expérience donc à la Cité des Étoiles en tant que doublure entre guillemets hein, de Jean-Loup Chrétien, vous revenez en France, et là, il y a la campagne de médias sur l'espionnage, enfin.
Ça n'a pas été quelque chose d'important, je veux dire. Il est normal que les médias cherchent à tout prix à avoir un élément qui attire l'attention. Bon, c'est leur problème, c'est pas le mien. Imaginez que Jean-Loup et moi, on avait été en Union soviétique pour espionner les Russes. Il faut vraiment être un peu demeuré, comme les services secrets français, d'ailleurs, c'est pareil. Avant de partir, ils avaient essayé de nous donner des consignes pour regarder, entre guillemets, un certain nombre de choses. C'était pas notre job. On partait là-bas pour travailler. Déjà, le travail était suffisamment difficile. Pour en plus mettre un élément, c'est d'une naïveté déconcertante.
En revanche, vous étiez plus préoccupé d'être top forme pour partir.
Bah, c'est mon seul objectif, oui, je veux dire. Le reste, ça m'intéressait pas.
Et vous avez un peu rejoué l'accident de moto avant un grand événement. On avait vu dans le deuxième épisode. Que vous avez eu un accident de moto avant votre entrée à l'école des pilotes. Et avant de partir sur la navette spatiale, vous êtes en région bordelaise,
bien sûr,
à toute vitesse.
J'avais interdiction de faire de la moto, et bien sûr j'en ai fait. Et bien sûr je me suis planté et je me suis cassé le poignet, quoi, qui est toujours cassé d'ailleurs. Et il a fallu que je cache ça, c'est tout. Mais je l'ai caché, hein. J'ai sorti le plâtre la veille de la visite médicale, et puis j'ai passé la nuit à appuyer sur le poignet pour qu'il prenne l'angle qui est testé par les médecins, comme celui-là fait ça,
oui. Ouais, celui-là. Un angle à 90 degrés.
Voilà, si je fais ça pendant une journée, il va faire ça, enfin ça fait mal. Et puis voilà quoi, donc.
Et du coup, ça vous a permis de partir.
Oui, donc vraiment, ça m'a pas interdit de partir.
Voilà, toujours une volonté, vous donner toujours le tout du tout.
Oui, je pense comme tout le monde, hein, quand on veut, on essaye de faire ce qu'il faut. Je me souviens d'une émission d'un journal de 13 heures avec Yves Morosi, qui était un ami. Je pensais que c'était un ami, mais enfin, un journaliste c'est jamais un ami. Et paf, j'avais le poignet dans le plâtre. Alors il voit ça, il me dit « t'as le poignet dans le plâtre ?» Je lui dis « ouais ». Donc le journal de 13h, on était, il y avait Yves, il y avait Marie-Laure Augry. Et donc je dis à Yves « faut pas que la caméra montre ça ». Alors il me dit « oui, bien sûr, on va s'arranger, ça se verra pas et tout, de manière à ce que le CNES ne sache pas ». Quoi. Évidemment, il a pas joué le jeu. Mais j'ai réussi à planquer le... Alors, les gens se sont peut-être demandé pourquoi j'avais toujours le bras derrière le dos, dans le dos. Mais je l'ai bien planqué toute l'émission, heureusement, parce que la caméra, elle était quand même un peu baladeuse. Quoi.
Oui, avec...
Ouais. Et là, ça aurait été un grave problème.
Donc il fallait sauver ce départ en navette. Je refais un dernier petit tour à l'intérieur de Discovery pour évoquer aussi les nuits, parce que, enfin, je renvoie sur les différentes, on mettra un lien, conférence que vous avez donnée sur la vie à l'intérieur, de pas se chevaucher, enfin, ces choses un peu qu'on retrouve de récit en récit, mais plus pour être un dernier moment sur la question du rêve, de l'observation. Et donc, vous avez la chance de pas avoir besoin de beaucoup d'heures de sommeil, si j'ai bien compris.
À cette époque, oui.
À cette époque.
Là, je compense.
Et du coup, vous avez profité de la nuit pour regarder tout seul. Est-ce que vous pouvez un peu
Et comme
développer...
là-haut, c'est dommage de dormir quand même. Franchement, c'est...
Oui, il n'y a que 7 jours.
C'est vraiment pas le moment. Et donc, je dormais très peu. Disons 3-4 heures par 24 heures. Quoi. Et parce que quand on travaille, on n'a évidemment pas le temps de regarder la Terre et l'espace. Donc il y a que dans les moments de liberté, où la charge de travail nous le permet, qu'on peut regarder dehors. Et ces moments, c'est les plus importants d'un vol spatial. Je dis toujours que dans un vol spatial, l'aspect technique ou scientifique, il est secondaire. Ce qui est primordial, c'est l'aspect humain. C'est pour ça que ça fait 30 ans ou même 40 ans que je milite pour le tourisme spatial. Vraiment, c'est pour un être humain, c'est l'expérience la plus fabuleuse dont il puisse rêver, justement. Et donc, quand on est là-haut, bien sûr, on essaye au maximum d'avoir quelques minutes ou plus pour regarder à travers la vitre sur le toit de la cabine du shuttle pour regarder la Terre et l'espace. Et donc, ce que je faisais, donc, je dormais le moins possible et ça se passait très bien. Hein. Voilà. La fatigue, elle est, il y a pas de fatigue, quoi, puisque musculairement on se dépense pas, donc il y a une fatigue peut-être intellectuelle, mais bon, même pas, parce que c'est quand on a travaillé, on sait faire toutes les expériences et tout ce qui est technique à la perfection, donc on n'a pas, si tout se passe bien, on n'a pas à réfléchir, quoi.
Et comment était le... On est à la radio, donc forcément j'ai envie de vous poser la question, comment était le son dans l'espace, est-ce que, ou dans la navette, est-ce que, quelles sont vos perceptions sonores, qu'est-ce que vous pouvez nous dire de ce voyage?
Le son, non, il n'y a pas de radio, parce que la radio, on avait des créneaux de quelques minutes seulement par orbite. Hein. Il faut être du bon côté par rapport à la Terre. Aujourd'hui, ce n'est pas pareil, il y a une couverture de satellite, et ils ont une communication avec la Terre, enfin avec le centre d'opération tout le temps. Nous, c'était pas le cas. Il y avait quelques minutes en fonction des orbites. Donc la radio, on n'est pas gêné par ça. Et à l'intérieur, bon, on est à l'intérieur. C'est comme, si vous voulez, à l'intérieur d'un avion de transport commercial. Il y a la clim qu'on n'entend pas, mais qu'on perçoit. Il y a un peu de bruit de l'air sur le fuselage. Là, il n'y a pas d'air sur le fuselage, mais il y a un bruit ambiant, un bas bruit des équipements électriques qui fonctionnent et de la régénération de l'air. Donc, c'est un très bas bruit, mais c'est un fond sonore permanent.
Et en revanche, sur les phases... De décollage et puis le retour sur Terre, hein, qui est toujours un moment très très critique. Vous avez très bien décrit, parce que bon, il y a les frottements et des températures qui voisinent les plus de 2000 degrés, enfin, oui, donc il y a un halo rouge. Quels sont le bruit est assourdissant à ce moment-là, comment c'est
non, mais là ce sont des moments, on essaye d'en profiter, quoi. Pas parce que c'est spécial. Vous êtes au milieu d'une boule de feu, et par les fenêtres, les hublots, vous voyez, vous êtes dans un environnement rouge, orangé. Et pendant cette phase, ben, il se passe rien, puisque on peut pas communiquer avec la Terre. Les ondes radioélectriques ne se propagent pas à travers le plasma, à très haute température. Donc, il faut attendre que ça sèche, comme dit l'autre. Et on en profite, parce que il y a un bruit très spécial, et on passe de Mach 25 à Mach 5. Et, voilà, quoi. C'est la rentrée dans l'atmosphère. Ça a toujours été comme ça. Et ça sera toujours comme ça. Parce que toute l'énergie qui nous a été donnée par le lanceur, par les moteurs fusées, il faut la restituer par freinage dans l'atmosphère. Donc ça dégage une quantité de chaleur énorme. Et donc on est au milieu d'une boule de feu. on est protégé par la protection thermique. Et voilà, c'est sympa, quoi. De toute façon, c'est binaire, hein, vous savez. C'est tout à fait binaire. Il n'y a pas d'inquiétude à avoir parce que ou ça se passe bien ou mal. Et quand ça se passe mal, ça va vite. Il n'y a pas grand chose à faire.
Et quand vous atterrissez, là, en plus, je crois que vous avez été dérouté, mais quelle est votre première pensée quand vous vous souvenez,
Du regret.
Du regret.
Ouais. Quand on désorbite, quand on allume les moteurs fusées là-haut pour se passer sur une orbite qui va nous rapprocher de la Terre, déjà là, on comprend que les carottes sont cuites. Quand on va rentrer, ça va être fini. Et quand on est sur Terre, ben, voilà, c'est dommage, c'est passé. Moi, j'espérais faire un autre vol pour aller sur la Lune, justement. Donc, à l'époque, j'étais jeune. Hein, j'avais pas une bonne compréhension du monde tel qu'il était. Et puis je pensais que la France et l'Europe allaient continuer sur la trajectoire qui était une bonne trajectoire à l'époque sur le plan technologique, puisque Ariane fonctionnait, on faisait des avions supérieurs aux autres, enfin on avait quand même une technologie fantastique.
Dans les dernières minutes d'entretien qui nous restent, j'aimerais revenir sur votre passion de la transmission, parce que du coup ce voyage et cette grande expérience et de pilote et de cosmonaute astronaute, vous allez la transmettre.
Oui, c'est-à-dire très vite, j'étais en contact avec des gamins, hein, puisque j'ai fait des interventions dans des écoles, ou des universités, et donc j'ai compris très vite que les enfants de 7 à 77 ans, comme disait Hergé. Les plus jeunes, en tous les cas, en grande majorité, manquaient d'objectifs, manquaient de rêves. Et donc, c'est ce que j'essaye de leur donner quand je les rencontre, et c'est ce que j'essaye de leur donner à travers les établissements ou scolaires ou autres que j'ai créés, qui trouvent cet objectif de manière à avancer.
Et vous avez même donné des cours avec un système virtuel, hein, que je trouve. Soit vous vous déplacez, mais avec le continent africain, vous avez été ambassadeur pour l'UNESCO, et des cours virtuels. Vous pouvez en 30 secondes nous dire un petit mot, parce que c'est très intéressant.
Très simple. En Afrique, si vous voulez, qui est le continent qui m'intéresse le plus, j'ai réalisé qu'il y avait beaucoup de problèmes. Il y en avait en particulier sur le plan éducatif, qui était que chaque Africain ne pouvait pas accéder à des études supérieures pour des raisons purement économiques, financières. Et donc, on a créé l'AVU, African Virtual University, donc l'université virtuelle africaine. Je le dis en anglais parce que j'ai éliminé les pays francophones. C'était trop compliqué d'avoir un dialogue avec les universités françaises. C'était déjà perdu à l'époque et aujourd'hui, n'en parlons pas. Donc, j'ai éliminé ça. Donc, tous les pays non francophones. L'AVU, c'est un accord entre des universités américaines, sud-américaines et d'autres pays d'Europe, et des universités africaines, de pays comme le Kenya, comme l'Afrique du Sud, etc., pour transmettre aux élèves, aux étudiants, des cours, justement, par voie satellitaire. Voilà, pourquoi virtuel ? Parce que c'était pas... Et ça permettait d'avoir des élèves qui accédaient à un diplôme d'enseignement supérieur, hein, une maîtrise, grâce à des cours qui coûtaient moins cher que d'avoir des enseignants sur place qui manquaient, etc. Donc cette université africaine virtuelle, elle a existé. Aujourd'hui, je ne sais pas où elle en est d'ailleurs, ça fait une dizaine d'années que je ne m'en occupe plus du tout.
Parce que là, vous faites des conférences au team building, vous intervenez maintenant aussi dans les entreprises.
Et l'entreprise, ça ne peut fonctionner que quand elle a un objectif clairement défini pour tous, et quand les employés, entre guillemets, c'est-à-dire les membres des différentes équipes, adhèrent à cet objectif. Et donc, c'est à ce moment-là qu'on a un esprit d'équipe et une grande efficacité.
On est dans les deux dernières minutes de l'entretien. J'aimerais vous poser une question très très rapide. Vous avez participé à l'avion Hermès. qui malheureusement, bon, on a vu avec la navette que c'était un engin dangereux. Et puis du coup, ce qui est arrivé aux États-Unis, plus la réunification de l'Allemagne, qui ont pu peut-être rentrer en jeu.
Alors Hermès, c'était un projet, un programme européen pour réaliser un avion spatial, c'est-à-dire un véhicule spatial qui soit capable d'emmener des astronautes européens ou autres, mais surtout européens, dans l'espace. Donc le but, c'était de donner à l'Europe cette capacité d'emmener l'homme dans l'espace. Donc ça, c'était quelque chose de fondamental. Et la solution choisie a été un avion spatial. Je me suis toujours opposé à cette solution. Quoique j'étais dans le programme, on le faisait avancer, mais on est vite arrivé à un certain nombre d'impasses, notamment sur le plan de la sécurité. Et donc le programme se modifiait et il allait devenir mature autour d'un concept un petit peu différent et avec une sécurité plus grande. Mais Hermès a été abandonné, non pas pour des raisons techniques ou autres, a été abandonné pour des raisons politiques.
Oui.
C'est des échanges entre Kohl et Mitterrand, qui ont fait qu'il y a eu certainement un échange sur le plan politique de l'abandon d'Hermès, parce que les Allemands étaient dans le programme, mais un peu à reculons, parce que tous les grands programmes ont été sous leadership français. Et les Allemands, ils vivent ça assez mal,
oui.
Parce qu'ils sont aussi compétents que nous, sinon plus, hein, c'est évident. En revanche, on a toujours pris le leadership, et sur ce programme aussi.
C'est toujours compliqué aujourd'hui, d'ailleurs.
Hein. Et c'est compliqué encore aujourd'hui, bien sûr. Et je vois même Airbus, ça n'a pas toujours été facile, mais ça, on y est arrivé Airbus, donc on aurait pu y arriver là, mais on n'y est pas arrivé. Toujours est-il que Kohl a échangé avec Mitterrand le fait que Mitterrand abandonne Hermès en échange de concessions politiques sur des avancées, notamment sur le traité de Maastricht. Voilà comment s'est arrêté Hermès. Et malheureusement, il n'y a pas eu depuis d'autres grands programmes technologiques qui mettent l'Europe en pointe. Donc ça a été le dernier grand programme, hélas.
Patrick Baudry, bien évidemment, on observe toujours ce que font les autres pays. Mmh. Quel pourrait être le modèle ou la nouvelle source d'inspiration ?
Bien, la source d'inspiration, c'est toujours la même. Hein. C'est la fusée de Tintin. Et c'est pour ça qu'on évolue et qu'on va aller sur Mars bientôt, j'en suis persuadé. Alors que soit les Russes, les Américains, les Chinois, vraiment, ça m'est égal. Le tout, c'est, moi, je veux voir l'homme marcher sur Mars.
Merci, Patrick Baudry.
Merci.
C'était À Voix Nue, chargé de programme Daphné Abgral, réalisation Guillaume Baldi, documentaliste Anne-Lise Signoret et Christine Anzano, une série de Meryl Moneghetti, disponible sur franceculture.fr et l'application Radio France.